Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, le dimanche à 22h, c'est la causerie. Une causerie évidemment confinée, on le répète tout le temps, mais voilà, on préfère être très clair sur ce qui se passe.
Peut-être pas ils l'entendent les gens. Hein.
Oui, c'est vrai, en fait, c'est complètement stupide. Donc en confinement, enregistré vendredi 7 mai aux alentours de 18h30. Et ce soir dans la causerie, donc vous l'avez déjà entendu, c'est Fab.
Bonsoir.
Et une que vous n'entendez pas souvent, mais que vous appréciez entendre, Clara.
Bonsoir, tu t'avances peut-être, Jean-Yves.
Oh non.
Et Jean-Yves qui adopte fait l'ouverture.
Bonsoir. Donc, on va vous rappeler vite fait les moyens de nous contacter. C'est toujours par mail, évidemment. lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. N'hésitez pas, si vous êtes artiste, une asso ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. D'autres l'ont fait, donc on espère bien que d'autres le feront encore. Et évidemment, il y a le blog aussi de l'émission, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous retrouverez aussi la causerie sur des plateformes d'écoute musicale, etc. Vous tapez la causerie Canu où que vous soyez, et si on existe à l'endroit où vous êtes, et ben vous nous trouverez. C'est pas génial ? Voilà.
C'est bien.
Pardon. Voilà. Et puis je fais ma petite retape aussi. N'oubliez pas, sur le blog, on a mis un petit onglet stickers. Donc si vous voulez des stickers, n'hésitez pas, tout est détaillé. Vous nous contactez, on vous en envoie. Voilà, des bisous.
Okay. Et puis, allez, on y va maintenant. Lâche le micro.
Oui, c'est ça, pardon. Je monopolise la parole, mais j'aime bien ça parce que finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger ? Non, je déconne. Fab. C'est toi qui commence. Et, et ben voilà, à toi, je me tais.
Enregistrer les émissions un vendredi soir à 18h30, c'est très compliqué, vous allez voir, vous en rendre compte. Alors, je vais juste faire un préambule. Toi qui écoutes, si tu n'écoutes pas seul et si tu écoutes avec des enfants, ben, en fait, coupe le son maintenant parce que tu vas devoir leur expliquer des trucs sur la sexualité et tu n'as peut-être pas envie, en fait, parce que c'est le sens de mon sujet. Après, si tu es quelqu'un qui est bien et qui a envie de parler aussi de sexualité avec tes enfants, de leur expliquer tout ça, ben, tu laisses le son et ça va bien se passer. Voilà, c'était le petit truc qu'il faut mettre avant, mais comme on ne peut pas faire comme à la télé, mettre un carton, ben, on le dit. Voilà. Ça, alors, ce soir, je vais vous parler de plaisir et de faux semblants. Voilà. Donc, 2021, année érotique. Bon, alors, OK, là, je me suis tapé un petit délire sur un ancien titre de Serge Gainsbourg de 1969, hein, 69, année érotique. Mais en fait, l'année 2021, elle est un peu plus loin que cela de l'érotique. Le temps serait plutôt 2021, année simulée. Ça, collerait un petit peu mieux. Ouais, c'est triste tout ça, mais en fait, je vais tenter de vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, vous n'échapperez pas à une petite litanie de chiffres, parce qu'il faut des chiffres pour bien comprendre les choses souvent. Alors,
amen. Je vais commencer.
comme ça d'un coup.
Bah, litanie, bon, voilà.
Ah, ah oui, c'est la liturgie plutôt que la litanie.
Oui, un mince. C'est vrai.
On va la garder quand même. Allez. donc...
Ouais, c'est pas bon d'enregistrer vendredi soir.
j'ai prévenu. Et on va tout laisser tel quel, ce que j'adore. Donc, quelques chiffres du coup. Donc, j'ai commencé par brosser un portrait de la population actuelle de plus de 18 ans. Hein, et donc, ces chiffres sont issus de diverses études et sondages, tous réalisés entre 2019 et 2021. Alors, au-delà de chiffrer, c'est surtout l'idée de se rendre compte des changements qu'il y a pu y avoir dans ces dernières années. Donc, on va commencer déjà par la satisfaction sexuelle en France, qui est en baisse. Et oui, globalement. C'est-à-dire que 75% des Français et Françaises se disaient globalement satisfaits sexuellement en 1990 et ils ne sont plus que 62% aujourd'hui. Voilà. Alors, je mets « ils ne sont plus », genre comme les journalistes qui ne s'incluent pas, sauf qu'on va dire « on n'est plus » parce que finalement, on est peut-être dans ces 62%, on n'en sait rien. Voilà. Une catégorie, en fait, voit ces chiffres augmenter. Par contre, c'est les LGBTI. Alors, c'est logique, hein, globalement, l'acceptation des couples lesbiens, gays, bi et des personnes trans et intersexes est en augmentation dans la société et ça permet donc de trouver plus facilement des partenaires, mais surtout de s'afficher comme des couples ou comme des gens qui vivent ensemble, tout simplement. Globalement, bah, ça fait que la satisfaction passe en 1990 de 52% à 73% aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment au niveau des Français en général, mais il y a 30 ans quasiment. Voilà. Ça va, vous avez suivi ?
Oui. Je me permets, parce que je voulais te couper avant, mais je n'osais pas. En fait, d'un côté, alors c'est peut-être tu le détailleras peut-être après, mais est-ce qu'une baisse finalement n'est pas aussi peut-être le symptôme ou le symbole d'une réinterrogation peut-être aussi des sexualités. Peut-être que dans les années 80, est-ce qu'on était aussi libre que ça? Vraiment, c'est une vraie question.
Et 90. Que
peut-être 90, est-ce qu'entre-temps, on s'est remis en question en se disant, mais en fait, et aujourd'hui, on réalise que genre, en fait, ben non, en fait, ma sexualité, je me fais chier, quoi.
C'est possible, mais simplement, moi, je donne que les chiffres que j'ai et je n'ai pas trop d'explications okay. Là tout de suite. Mais peut-être qu'avec la suite, vous comprendrez certaines choses. Alors, et qu'est-ce qui fait que la satisfaction, justement, est en baisse? Parce que quand même, il y a eu la question a été posée. Alors déjà, on va remarquer que c'est surtout chez les femmes hétérosexuelles que la chute est la plus forte. On passe de 72% dans les années 90 à 55% de satisfaction aujourd'hui, soit près d'une femme sur deux qui est donc déçue de sa sexualité. Et ce, qu'elle soit célibataire, en couple ou avec plusieurs partenaires en même temps. Enfin, en même temps, pas forcément en même temps dans la sexualité, mais en même temps dans le temps. Autre chose, la simulation lors du rapport sexuel, il y a eu des transformations. 20% des hommes, par exemple, aujourd'hui, admettent avoir déjà simulé lors d'un rapport sexuel, même si ces 20% d'hommes admettent que c'est très rare. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Alors que les femmes sont entre 65% et 80% à dire qu'elles simulent régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rare, on est dans le régulier, lors de leur rapport sexuel. Et si elles le font, très clairement, dans l'ultra-majorité des cas, c'est pour ne pas décevoir leur partenaire. Voilà. Messieurs, parce que c'est majoritairement les femmes hétérosexuelles qui sont déçues, cela veut dire que statistiquement, vous avez eu au moins une fois un rapport sexuel qui n'a pas amené à l'orgasme et au plaisir. Votre partenaire a donc simulé pour ne pas vous blesser, malgré ce que vous pensiez. Vous n'êtes pas tous des Rocco Siffredi en puissance. Ça devrait vous rendre un peu humble, même si d'ailleurs je suis persuadé que vous seriez un Rocco Siffredi, elle simulerait plus souvent. Enfin bref, je reviendrai dessus. Autre point important, le fait de se mettre en couple n'est pas en lien direct avec le fait d'avoir le meilleur ou la meilleure amante avec soi. Un tiers, alors à peu près 38% des hommes et 30% des femmes, ne considèrent pas leur partenaire du moment comme le meilleur coup de toute leur vie. Voilà. D'ailleurs, ça démontre que le couple ne se construit pas sur la sexualité, contrairement à ce qu'on nous vend. Il se construit plutôt avec des sentiments du type plaisir d'être avec la personne, échange et stabilité, c'est-à-dire le fait de ne pas s'engueuler toutes les 4 minutes. Voilà. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup le couple sur la sexualité, alors qu'en fait, globalement, tout ça, c'est des études sociologiques. Elles démontrent que majoritairement, les gens ne se mettent pas en couple que pour la sexualité. Et c'est beaucoup d'autres facteurs qui font ça. Mais la bonne nouvelle, hein, donc, c'est quand même qu'en 15 ans, on est passé de 60% à moins de 20% de femmes hétérosexuelles qui pensent que leur partenaire habituel n'est pas à l'écoute de ses envies, au moins la plupart du temps. Alors, ça ne veut pas dire tout le temps, mais ça veut dire que de temps en temps, quand même, elles ressentent le fait que il n'y a plus que 20% de femmes qui ne ressentent jamais le fait qu'on prenne en compte leurs besoins, désirs et envies. Voilà. Et pour vous rassurer, hein, le nombre de personnes qui mettent fin à leur couple pour insatisfaction sexuelle semble osciller entre 18 et 24% des séparations. Voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que le mensonge et l'infidélité, avec ses 35%, ou les problèmes domestiques, avec ses 42%. Alors, j'ai trouvé très cynique d'appeler ça problème domestique, mais dans problème domestique, il y a le fait d'avoir de la violence.
Voilà. Ah ouais, d'accord.
Encore classé dans problème domestique.
Ouais.
Je vous laisserai juge des caractéristiques sociologiques qui sont choisies par moment et qui peuvent surprendre. Mais alors, comment avec un moment comme celui-ci que nous vivons, où le sexe serait devenu un objet courant de discussion, où les sexualités seraient libérées comme jamais, sommes-nous arrivés à ce constat ? On est moins satisfait qu'avant, du moins dans ce qu'on déclare. Voilà. Et en particulier les femmes hétérosexuelles, qui semblent être beaucoup moins satisfaites qu'à une autre période. Sachant que selon 2 études, entre 13 et 17% des femmes n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. Voilà. Et c'est quand même assez important, ça fait 1 sur 5, ce qui n'est pas… voilà. Alors bah déjà, il y a une notion hein, dont on a déjà parlé dans l'émission plusieurs fois, c'est la notion d'injonction, vous savez, le fait qu'on nous dise « il faut faire comme ça ». Alors le problème d'un sujet, hein, quand il devient à la mode, c'est qu'il tourne vite aux injonctions donc, et aux pressions. On a déjà parlé du poids de l'imagerie pornographique dans nos pratiques sexuelles, on en a parlé dans l'émission, vous tapez dans le moteur de recherche, vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas. À quel point cette imagerie et ces imageries ont tendance à neutraliser le plaisir par une vision purement mécanique du sexe et du type exploit sportif, et de normaliser finalement des pratiques qui ne sont pas majoritaires, comme la sodomie, l'éjaculation féminine et d'autres doubles, triples, voire quadruples pénétrations aujourd'hui. Et en fait, en banalisant ça et en faisant une espèce de Saint Graal pour avoir du plaisir, on se rend compte que ça ne correspond pas aux attentes réellement des gens. Et ça, c'est un poids important. Donc, ces films, hein, je le rappelle, comme les films de super-héros, ils mettent en avant des exploits impossibles. Hein, parce que, voilà. Et d'ailleurs, quelque part, quand on y réfléchit, peu souhaitables, parce que bon, on n'a peut-être pas forcément envie de vivre ça. Pourtant, le plaisir ne naît pas de la mécanique uniquement, ça se saurait. Ouais.
Non, c'était juste pour dire, pour les mecs qui peuvent fantasmer sur la sodomie à sec comme ça, et allez-y les mecs, hein, vous privez pas, prenez un concombre, foutez-vous dans le cul et vous allez voir en fait ce que ça fait. Et qu'en fait c'est tout ça, c'est effectivement déshumaniser tout plein de choses, alors qu'en fait, enfin, la sexualité c'est pas juste. Enfin, c'est pas juste un truc animal. Ça peut l'être, il n'y a pas de souci. Mais c'est cette notion de base fantasmatique un peu qui ferait une relation formidable. Sauf que il faut en discuter, en fait, quoi. Mm. C'est plutôt ça.
Et autre phénomène hein, qui ressort des différentes études, c'est le fait d'avoir peur et de recommencer en fait toujours les mêmes choses. Et ça entraîne une perte du désir et du plaisir. Sauf que dans une société où l'on met une pression monstre sur le fait d'atteindre ou de faire atteindre le plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu un sujet extrêmement débattu dans tous les magazines et sur Internet, ça enferme en fait les gens dans des façons répétitives et normatives de se donner du plaisir. Et attention, c'est très humain. On le fait tous, ça, en réalité, et toutes et tous, d'ailleurs. Je vais prendre un exemple totalement autre, mais quand on trouve un chemin pour aller d'un point A à un point B, très rarement, hein, on se décide de se dire « tiens, je vais prendre des chemins de traverse, des rues à côté, je vais aller flâner ». Non, en fait, on refait toujours le chemin parce qu'on sait que c'est efficace, rapide et qu'on aboutit là où on voulait aller. Ben, en fait, c'est pareil pour le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à faire un petit peu comme quand on va d'un point A à un point B. Quand on trouve une façon de faire jouir l'autre, ou soi-même d'ailleurs, on a tendance à se recroqueviller sur cette méthode qui apporte quand même de la satisfaction, mais finalement de moins en moins par l'effet de répétition, mais qui devient finalement une routine et qui peut devenir un ennui à la longue. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est une des caractéristiques de ce qui est sorti de ces études, de dire, bah, en fait, à la longue, moi, je m'ennuie. Et en fait, quand on s'ennuie, on a du mal à prendre du plaisir. C'est logique.
Ouais, mais parce que justement, le plaisir, c'est plus complexe que d'aller d'un point A à un point B.
Tout à fait.
Enfin, plus complexe et plus beau et plus… Enfin, oui, trouver juste un chemin très matériel, c'est… Oui, effectivement, on n'a pas envie de se faire chier, quoi. Mais là, on peut peut-être se dire que pour le plaisir, effectivement, les chemins de traverse peuvent être très sympas, quoi.
En fait, Joyve, il a envie de spoiler ma chronique à chaque fois il fait le coup de
non, putain.
C'est marrant. On va continuer. Non, c'est pas grave. Mais justement, qu'est-ce qui bloque? Parce que tu viens de mettre le doigt dessus, si j'ose dire. Dans une société de la performance, hein, plutôt que du vivre, dans une société qui pousse à être toujours plus performant, où on ne parle plus que de challenge et autres défis à relever pour atteindre toujours une meilleure version de soi-même, la pression est immense sur chacune et chacun d'entre nous. Et en fait, on a beau dire « c'est pas vrai, ça me touche pas », en fait, ça touche tous les milieux en réalité, et y compris des milieux qui devraient en être exempts, mais qui en réalité recréent des normes qui sont elles-mêmes des normes qui appuient sur certains aspects que ne peuvent ne pas avoir des gens. Je vais faire une petite parenthèse parce que moi, j'ai lu quelqu'un qui disait « moi, je suis totalement déconstruit et en tant que militant antifasciste du cortège de tête, je sais ce que je fais ». Sauf qu'en réalité, le cortège de tête, il a une imagerie plutôt viriliste, plutôt dans la violence, que je ne lui enlève pas, il a le droit. Mais donc, il crée aussi une norme de façon d'être. Mmh. Et finalement, on est toujours attaché à un moment donné à des normes de façon d'être. On a beau dire que ce n'est pas vrai. Eh ben, l'être humain, il est comme ça, il a tendance à se conformer à des normes qui le rassurent. C'est très rare d'être totalement différent des autres. Et d'ailleurs, quand on l'est, généralement, on dit « ah, qu'est-ce qu'il est ou qu'elle est excentrique ?»
Mais parce que finalement, c'est très difficile de s'extraire de toute influence.
En fait.
Parce que c'est ça, en fait, c'est finalement de l'influence. Alors, elle peut être positive, négative, etc. Mais c'est… Oui, en fait, c'est ça. Oui, ça fait partie de l'humain, quoi. C'est…
Et encore une fois, je trouve pas ça négatif, c'est la façon dont l'être humain et l'humanité se construit depuis des millénaires maintenant, et ça veut pas dire qu'on peut pas le changer, mais ça veut juste dire qu'il faut le prendre en compte dans notre approche des choses. Donc du coup, dans cette société où du challenge permanent, du il faut toujours être au top, du t'as 40 ans et t'as des poignées d'amour et c'est pas bien, et du tu es une femme, tu devrais jamais ne pas être épilée et être toujours mince, et voilà, et toutes les injonctions. Et ben en fait, on en vient à ne plus parler de nos faiblesses, de nos doutes et de nos trucs un peu étonnants en fait qui parcellent notre cerveau. Et quand je dis des trucs étonnants, c'est pas forcément des choses négatives, c'est des choses qui peuvent être propres à vous. Par exemple, il y a des gens qui vont s'extasier devant des objets qui ont une certaine couleur, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des scientifiques qui disent c'est comme ça, et ils vont les trouver forcément beaux, même quand ils sont laids. Mais ils vont pas oser le dire parce qu'ils vont se rendre compte, par exemple, que la majorité des gens vont dire c'est moche. Et en fait, c'est un petit exemple que je donne comme ça en dehors de la sexualité pour imaginer ce que ça peut donner dans la sexualité. C'est-à-dire, si quelqu'un va dire bah, « moi, en fait, j'aime pas trop les cunis, j'aime pas qu'on m'en fasse ou j'aime pas en faire bah, », comme aujourd'hui, la norme est au cunilingus, on va lui dire bah, « c'est bizarre quand même, oh, bah, tu devrais essayer, parce que si tu essayes, tu vas voir que ça va te plaire ». Et en fait, d'un seul coup, ça neutralise et beaucoup de gens refusent de dire bah, des choses qui leur plaisent ou qui ne leur plaisent pas, ou voilà, des choses comme ça. Ou alors quelqu'un qui va dire « moi, je surkiffe l'arrêt du cou chez les personnes parce que je trouve ça très joli. Bah, les gens disent, oh, bah, t'es bizarre, toi. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est les seins. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses qui font qu'on tait un petit peu ce qu'on est. Donc, on passe notre temps, finalement, à performer, c'est-à-dire être dans la performance, et ce, quels que soient les milieux, hein, comme je le disais, plutôt que d'être dans la vie. C'est-à-dire qu'on se crée des alter-ego plutôt que nous-mêmes.
Ouais, c'est ça, c'est une sorte de jeu, en fait. C'est un théâtre, quoi.
C'est ça. Sauf que trouver le plaisir, justement, bah, ça demande deux choses que finalement, on se refuse. S'approprier, déjà, soi-même, pour savoir découvrir son corps. Donc, s'approprier son corps pour le découvrir. Et donc, découvrir ses zones érogènes et de plaisir. Parce que je rappellerai aux auditrices et auditeurs, et on a fait trois émissions dessus, que non, vous n'avez pas que deux zones érogènes. Hein, vous en avez beaucoup, beaucoup, et qu'elles sont très différentes d'une personne à l'autre. Et aussi, du coup, savoir fixer des limites et demander des choses inattendues pour atteindre le plaisir. C'est tout ça, en fait. Et dans cette société où on se refuse de parler, où on nous empêche de parler, on ne peut pas poser tout ça. Et aussi, un truc tout bête, il faut de la disponibilité. Oui, parce que c'est facile de dire mais il faut se donner du plaisir ou il faut faire l'amour à deux, à trois, à quatre, mais il faut être disponible pour ça. Alors moi, je suis toujours amusé d'écouter les mecs, oui, parce que c'est généralement des mecs qui tiennent cette discussion que je vais vous décrire après, qui vont vous dire que leurs compagnes ne sont pas assez dispo, elles veulent jamais faire l'amour. Vous voyez, on entend souvent ça chez les mecs. Sauf qu'ils auront un petit peu oublié qu'ils lui ont laissé gérer toute la maison, les enfants, préparer le week-end à venir et choisir les cadeaux d'anniversaire de ses beaux-parents à elle pour leurs 40 ans de mariage. Donc, évidemment, c'est un peu facile d'ailleurs de dire « Ah bah oui, mais elle veut jamais. » Ouais, mais peut-être que si tu faisais ta part, en fait, ça se passerait mieux. Tente le coup. Donc, je vais revenir aux deux points précédents. S'aimer, en fait, c'est devenu très difficile dans une société extrêmement normative, malgré ce qu'on a beau dire, parce que finalement, quand on regarde la société aujourd'hui, elle est normée par les réseaux sociaux, beaucoup, parce qu'ils ont une place assez énorme. On fait partie de tribus, mais des tribus qui sont reliées, en fait, finalement, entre elles, souvent via les réseaux sociaux. Et on en a déjà parlé dans l'émission, et on sait que ça n'aide pas, et c'est au contraire, quoi, parce que quand on n'arrive pas, finalement, à sortir d'une norme et à être soi-même, en fait, on a du mal à s'aimer et du coup, on refuse, on repousse le plaisir. Et ça, c'est un vrai problème. Oui.
Mais parce que arriver, en tout cas, à essayer de sortir d'une norme, c'est très difficile de le faire quand tu es sous les regards de dizaines de personnes, de tout tes contacts, de tout ça. Et que, en fait, là où avant, et où il existe encore des regards qui peuvent être la famille, la communauté, le village, le quartier ou tout ce que tu veux, et ben en fait, tu retrouves la même chose en fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la masse de contacts ou de connaissances devient une pression et des regards qui se posent sur toi et que dès que tu vas faire un pas de côté, on va te dire que tu fais le pas de côté, alors qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça, en fait, là.
Clairement. Et d'ailleurs, il y a un petit exercice que vous pouvez faire pour vous rendre compte, finalement, qu'on fait tous un peu partie de tribu. Vous vous mettez à une terrasse parce que ça va rouvrir, donc les gens vont être contents, ils vont pouvoir s'asseoir en terrasse, c'est bien. Et vous commencez à regarder les gens qui passent. Et ça va être assez simple pour vous de voir qui suit les influenceurs et influenceuses sur Internet, par leur style vestimentaire, par leur façon d'être et des choses comme ça, et qui suit finalement un courant révolutionnaire, par exemple. Ça se verra, en fait, à la façon de s'habiller. Et finalement, on est tous membres de tribu. C'est un peu comme ça. Mais c'est aussi un problème, et beaucoup de sexologues commencent à le dire, c'est aussi un problème en lien avec notre appréciation du corps et notre nous-mêmes. Parce que finalement, des fois, on n'a peut-être pas forcément envie de se conformer à un style de tribu qui a aussi finalement son style de sexualité. C'est aussi une réalité. Et l'autre point, en fait, justement, c'est celui des limites. Dans une société qui passe son temps à se demander de se dépasser, et de dépasser ses limites, combien de fois on l'entend ? Je veux dire, si maintenant vous allez sur n'importe quel streamer de vidéos ou autre, les publicités que vous allez avoir et qui vont s'afficher, elles commencent souvent par « tu n'as pas ton summer body, mais t'inquiète pas, j'ai la formule magique pour que tu deviennes super efficace et super fit pour l'été. Tu n'es pas très satisfait au lit, t'inquiète pas, j'ai la formule super efficace pour que tu deviennes le super méga étalon. » Enfin, oui. Donc, en fait, la société, elle est tout le temps en train de faire ses injonctions au dépassement, sans parler du milieu professionnel où on vous dit systématiquement d'être toujours meilleur que ce que vous étiez la veille, ce qui est un peu compliqué, ou d'ailleurs même dans n'importe quel milieu, parce que quand on y regarde bien, c'est devenu un petit peu un mot à la mode, le challenge et le dépassement. Voilà, c'est quand même le truc. Donc, du coup, dans une société qui dit qu'il faut dépasser les limites, c'est du coup très compliqué de fixer les siennes. Ah oui, parce que s'il faut toujours dépasser les limites, compliqué de se dire quelles sont mes limites à moi dans le cadre du plaisir notamment. Oui.
Mais c'est toujours quand même un cadre très donné et très, très, je ne sais pas comment dire. Parce que finalement, dépasser du cadre, c'est aussi penser autrement. Enfin, ça peut aussi être, enfin, je ne sais pas, je vais faire très court, mais on peut se déclarer ici majoritairement anard. Mais c'est sortir du cadre politiquement, j'ai envie de dire.
Oui.
Mais ce qui est... Et je me suis complètement perdu.
Je crois, parce que je ne vois pas où tu vas.
On fera un coupage.
Si je comprends ce que tu veux dire, c'est que dépasser des limites, ça peut être parfois positif. C'est pas mon propos.
Merci.
Ça peut être tout le temps dans l'idée qu'il faut toujours les dépasser et toujours aller plus loin. C'est problématique parce qu'en fait, dans la sexualité et dans le plaisir, certaines choses reposent sur tes propres limites.
Oui.
Tu as le droit de les fixer.
Oui, et qu'en plus, c'était ça que je voulais dire, c'est que souvent, la leçon dont on parle qui nous amène à dépasser nos limites, c'est pas pour votre bien-être à vous, c'est pour remplir des poches. Quand votre patron veut que vous soyez performant, etc., c'est pour lui rapporter du pognon. Quand tous les telle ou telle marque, comme tu disais, veut te vendre soit un truc pour énergiser ta sexualité ou pour, je ne sais, pour avoir le body fit, etc., c'est pour te vendre quelque chose, quoi.
Tout à fait.
Il ne faut pas l'oublier aussi, ça. C'est le dépassement de soi. Pour qui, pourquoi et dans quel cadre, quoi.
C'est bien pour ça que je parlais de société et pas de l'injonction. Elle est vraiment liée à la société, qui est une société capitaliste, hein, ne l'oublions pas, et qui cherche effectivement à faire un maximum de profit sur notre gueule. Donc du coup, le problème, c'est que cette société capitaliste, finalement, pour clarifier ce que je voulais dire, eh ben, elle a fini par rentrer dans nos lits ou ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de baiser dans votre lit, mais en fait, elle a fini par rentrer dans nos sexualités parce que tout devrait être négociable. Sauf qu'en fait, les sexologues disent non, il y a dans la sexualité, il y a des choses qui sont primordiales. C'est la capacité à dire ça, je ne l'aime pas et je ne veux pas le faire. Parce que quand on fait quelque chose sans envie, juste pour faire plaisir à l'autre, eh ben, en fait, on se perd et on va s'ennuyer, voire pire, parfois, on se fait même du mal en dépassant un point qui a trait à l'intégrité de soi-même. Et ça, en fait, bah, la sexualité, le plaisir, le désir, ça ne doit pas être un endroit où vous vous retrouvez à vous faire du mal à vous-même. C'est un endroit où, théoriquement, vous vous retrouvez vous-même pour vous donner du plaisir. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête. Alors, il n'y aurait pas de solution ? Bah si, quand même, il y a quand même, si je vous fais une chronique ce soir, c'est pas pour vous dire bon, c'est foutu. Il y a vraiment des solutions. Et en fait, les solutions, elles se trouvent finalement beaucoup plus loin que la simple exécution physique d'un acte en lien avec le plaisir, donc de la sexualité ou de l'onanisme. Ça, c'est bien au-delà de ça, même si l'onanisme est une sexualité d'ailleurs au passage. D'abord, il va falloir se débarrasser de la performance pour entrer en réalité dans l'hédonisme le plus simple. C'est ce que beaucoup de sexologues disent et beaucoup de philosophes de la sexualité disent. On a perdu la notion d'hédonisme autour de la sexualité. Et l'hédonisme, je vous le rappelle, c'est la capacité de prendre du plaisir en grande quantité, voilà, tout en ayant, tout en assumant de vouloir en prendre. C'est-à-dire, c'est l'idée de se dire, ben, j'ai le droit, et voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme le disaient les penseurs hédonistes, tenter, essayer, jouer, aimer, déguster, caresser, etc., 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 pour trouver en fait ce qui bah, nous fait kiffer ou découvrir des nouvelles choses qui nous font kiffer sans rentrer dans la honte et sans aller vers le jugement. Il faut en fait sortir du schéma idiot de la pénétration comme obligation et acte ultime. Et alors ça, c'est marrant parce qu'il y a une sexologue qui dit que c'est valable aussi bien chez les hétéros que chez les lesbiennes qui aujourd'hui ont tendance à s'obliger la pénétration digitale ou avec des objets. Parce qu'en fait, la pornographie a aussi une influence sur la sexualité des personnes lesbiennes comme des personnes gays. Et en fait, cette sexologue dit, il ne faut pas croire que quelle que soit votre sphère, vous soyez pur et en dehors des clichés, et ils sont aussi à interroger. Donc voilà. Donc il faut donc sortir des clichés de performance sur le temps, la longueur du sexe, la forme de la vulve, les lèvres, hein, si elles dépassent ou pas, et autres conneries qui sont véhiculées par une société finalement malade d'elle-même, qui nous pousse à nous conformer aux attentes d'un marché de l'humain plutôt que d'une construction de l'humanité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les hédonistes, ils veulent construire l'humanité, pas construire un marché. Ce n'est pas pareil. Il faut aussi parler en fait, au sens propre. C'est-à-dire qu'il faut parler de ses envies, de ses désirs, et pas que dans le cadre de la sexualité. Il faut arriver à exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de ce qui nous fait vibrer en fait, globalement. Par exemple, il y a une image que j'ai en tête, parce que quand j'ai préparé ce sujet, j'ai trouvé ça assez beau. Il y a un homme qui était en couple avec une femme depuis une vingtaine d'années, et ils n'arrivaient pas à avoir une sexualité satisfaisante. Et un jour, elle lui a dit, mais tu sais, j'adore les fleurs. Et il a eu l'idée, en fait, de alors ça peut paraître comme ça bête, mais de mettre des pots de fleurs fleuries dans la chambre pour donner une sorte d'atmosphère un peu particulière. Et elle disait, bah, ça a été la première fois que nous avons eu une sexualité satisfaisante à mes yeux. Et en fait, le fait d'avoir un environnement qui lui plaisait, ou du moins l'effet de surprise lié à cet environnement et à quelque chose qu'elle aime beaucoup, bah, a fait que ça a déclenché quelque chose. Et finalement, on se rend compte que la sexualité, c'est beaucoup plus, et le plaisir, c'est beaucoup plus complexe que simplement un acte, un lieu et un moment. Donc, il faut partager à différents niveaux, hein, selon les personnes à qui vous parlez. Un illustre inconnu, n'allez pas lui raconter d'un seul coup tous vos désirs et vos délires. Vous n'êtes pas obligé. Oh, sauf si vous voulez, hein, ça, c'est votre problème après. Et il faut donc arriver à dire ce qui nous rend vraiment bien, se défaire des obligations et accepter de dire, bah, par exemple, je le disais au-dessus, bah, moi, la pénétration, ce n'est pas mon truc. Donc, voilà. Et l'autre n'a pas à vous dire, bah, tu devrais essayer avec moi, ça va être génial. Non, apprendre à entendre et écouter. Et ne pas penser que le plaisir n'est lié qu'au sexe, finalement. Il est aussi dans chaque moment plaisant, comme leur nom l'indique. C'est pas le plaisir, c'est pas uniquement sexuel. Messieurs, je vais m'adresser à vous spécifiquement ce soir. Maintenant, là, tout de suite. Dans ce monde patriarcal, parce que je vous rappelle, messieurs, que nous avons une position de pouvoir dans ce monde, hein, il faudrait arrêter de croire que ce n'est pas vrai. Lâchez les rênes, mais vraiment, vraiment. Personne ne vous demande de tout diriger dans la vie, et encore moins dans la sexualité. Voilà, et encore moins dans le plaisir et le désir de l'autre. Apprenez à vous taire, à écouter, à vous laisser guider. Personne n'en mourra, certainement pas votre fierté. Vous aurez peut-être un peu mal à l'ego, mais ça va passer. Voilà. Donc, quand vous avez du coup des partenaires réguliers, ou pas d'ailleurs, la première chose, ou pas réguliers, ce n'est pas grave, mais la première chose qui devrait prévaloir, si la recherche de plaisir est là, et non pas la recherche de l'exécution d'un acte purement mécanique, c'est de se guider l'un l'autre, l'une l'autre, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.
Dans toutes les formes de
combinaisons.
Dans toutes les formes possibles. Et en fait, le faire ensemble, quoi, en fait, en réalité. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, il ne faut pas hésiter à parler aussi pendant l'acte, on a le droit, parce que oui, dans le porno, on ne parle pas, à part pour dire vas-y, machin, ça. En fait, on peut parler pendant l'acte, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire débander, ni vous faire tomber la libido, tout va bien se passer. Même d'ailleurs avec un coup d'un soir, comme on dit. D'ailleurs, je tiens à rappeler que cette expression coup d'un soir vient des réactionnaires, hein, parce qu'on l'emploie beaucoup, mais finalement, c'est un truc réac au départ. Elle n'a pas vocation finalement à être triste et robotisée. On peut tout à fait discuter de choses qu'on a envie de faire ce soir-là avec cette personne-là, ou de guider l'autre, ou de voilà. Et les choses, en fait, elles sont ce qu'on en fait vraiment. C'est pas autre chose. Au fond. Oui, vas-y.
Non, j'allais presque dire, et même si à la rigueur, avec tous vos plans d'un soir, vous avez envie de faire les mêmes choses, vous le pouvez. Mais c'est oui. En fait, c'est toujours cette notion, effectivement, de poser les choses et que ça soit réfléchi et une envie, en fait.
C'est ça, conscientiser, comme on dirait dans certains milieux. Donc, au fond, hein, comme le soulignait la célèbre sexologue américaine, le docteur Ruth, oui, j'ai des références géniales. Il n'y a pas de bonne façon de prendre du plaisir, il y a des façons. Voilà. Parfois, on se trompe de façon, parfois, on rencontre des moments que l'on n'aime pas. Et il faut savoir les reconnaître pour ne pas y retourner, justement. Il faut explorer, recommencer, se tromper et souvent, de plus en plus souvent, trouver du plaisir. Notre plaisir est dans notre faculté à nous tromper, à louper et à discuter du pourquoi et à recommencer pour aller vers autre chose. Voilà. Je pense qu'elle résume plutôt pas mal ma chronique. J'aurais pu vous lire ces quatre phrases et m'arrêter là.
Ça aurait suffi, voilà. En fait.
Ouais.
Mais non, mais... Ouais, non
mais... Je voulais juste finir, en fait, cette petite chronique légèrement sexo, hein, en citant un groupe ultra moderne. La performance est vulgaire. Voilà.
C'est pas mal, ça. Effectivement. Bah, de toute façon, c'est vraiment un sujet sur lequel on reviendra encore et encore parce que c'est pas demain que tomberont justement toutes ces notions de normes, d'obligations, de trucs qu'on nous fout dans le crâne à coups de burin, quoi. Enfin, c'est très long et qu'en plus, je pense que ça demande plein de choses. Effectivement, aller dans des moments de discussion là où on est dans des sociétés où on nous apprend pas forcément la notion de dialogue, etc. Donc, l'émancipation est une longue route. Et c'est pas spécifique aux auditeurs, auditrices. Hein. On s'exclut pas des choses. Hein.
Ah, je ne m'exclus pas.
Non, mais
oui,
oui.
De ma chronique. Donc,
non, mais c'est.
Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est longtemps que je n'avais pas dit rebondir. Oui.
Quelques années.
En fait, c'est intéressant de voir que dans l'histoire, il y a toujours eu des normes, en réalité, contrairement à ce qu'on croit. Alors, même chez les libertins, même chez tout ça, il y a toujours eu… Alors, libertins, je parle du 18e. Hein, oui. Il y a toujours eu, en fait, une normation et des normes qui s'établissaient. On rejetait ou pas l'homosexualité, on rejetait certaines formes d'amour, on fixait certaines choses. Et en fait, finalement, quand on regarde un petit peu objectivement les choses, le dépassement des normes, bah, ça se passe toujours avec un groupe à un moment donné qui va essayer de les dépasser, mais qui va finalement trouver lui-même ses propres normes et ses propres limites. Mmh. Et ça devient du coup très compliqué d'admettre que finalement, l'émancipation pour le plaisir, pour le désir et pour ce qu'on est, ça passe et par une émancipation individuelle et par un aspect collectif. Et pas uniquement par l'aspect collectif ou l'aspect individuel. Et c'est bien un mélange des deux et un croisement des deux qui permet d'aller vers plus de plaisir et plus d'acceptation de soi-même. Et ça, en fait, bah, ça porte un nom, ça s'appelle l'anarchie amoureuse. Et je vous laisse faire des recherches dessus, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des très beaux textes là-dessus, mais je reviendrai dessus un jour, promis.
Bon, ben, voilà. On passe à la musique ?
Oui !
Allez, on y va !
I kissed someone, it wasn't you. Leaning in like I'm supposed to do. I pulled away and I gasped for him. I didn't feel a single thing. I kissed someone, it wasn't me. Locked inside a slut this eve. All worked up for something dead. I think it's time to go to bed. Put me in a car, I just want to go home. Put me in a bath, I forget you all go. How could it be anyone? I kiss someone because it's fair. What do I tell you, would you care? So deeply hurt, you beg for who? Or are you kissing someone too? Put me in a car, I just want to go. Put me in a bar, I forget you are cool. How could it be anyone but you? I kissed someone, it wasn't you. Leaning in like you were supposed to do. This was what I waited for, but it just made me miss you more.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. On vient d'écouter Dodi avec le titre I Kiss Someone, It Wasn't You. Voilà, et moi j'adore Dodi, donc je vous invite à découvrir son premier vrai album qu'elle vient de sortir et qui est une petite pépite. Voilà. Et sinon, bah, je voulais m'excuser platement, mais vraiment platement, parce que j'ai dit à Clara que c'était liturgie et pas litanie, sauf que la litanie, ça existe dans l'Église, et Clara, c'est donc la litanie des...
saints.
Voilà.
Et... Mais pas... Non, rien.
Ah, pas ceux en lien avec mon sujet, c'est ça que tu veux dire.
Oui, voilà, c'est ça.
Et ça y est, ceux qui n'avaient pas le droit d'avoir de sexualité, tout ça, tout ça.
Tout à
ah
fait.
Oui, je comprends. Alors, c'est une litanie chiante, alors, du coup. On va laisser tomber. Bon, ben justement, dans cette causerie un petit peu sexo ce soir, on s'est dit on va finir avec quelque chose de totalement pas sexo, puis finalement si. Alors Jean-Yves, il a envie de vous présenter un truc qui va vous faire plaisir et que vous pouvez tous voir et entendre.
Peut-être pas, peut-être que ça leur fera pas plaisir, mais ouais, pour rester dans le thème, effectivement, je me suis dit que j'allais vous parler de la série Sexify, parce que c'était vraiment approprié, hein, parce que vraiment on est dans le thème à fond. Donc c'est une série polonaise, hein, qui porte sur le plaisir féminin. Voilà, c'est tout pour moi. Non, je déconne, ça va.
Merci, c'était bien.
Et ben pour oui, une fois, c'était court. C'était bref. Alors d'habitude, je dis toujours trop de choses. Mais non, vas-y. Dommage, je vais continuer. Donc, donc Sexify, hein, c'est une série réalisée par Kalina Alabrutsinska et Piotr Damalewski, qui se déroule dans une université de technologie polonaise. Donc, on y rencontre Natalia, qui est une étudiante, ingénieure en dernière année, et qui travaille en fait sur une application pour, dans le cadre d'un concours de fin d'année, autour du sommeil. Sauf que bon, son prof lui dit en fait que c'est pas entre guillemets sexy, vendeur, entendons-nous, ou je sais pas comment dire, motivant, et que c'est pas non plus très innovant, ou utile, ou accrocheur. Oui.
Oui, juste dire que en fait, en Pologne, quand on fait des projets, il doit finir en start-up dans cette université. C'est-à-dire qu'on doit monter sa start-up, c'est l'idée.
Tu fais bien de le dire. Donc voilà. Donc il lui dit que c'est pas innovant, que c'est pas utile, tout ça, tout ça. Et bah, bon, bah, forcément, bah, Natalia, elle part à la recherche d'une nouvelle idée d'application. Et sa voisine de chambre, une certaine Monica, et Paulina, qui est une amie étudiante, bah, elles vont l'aider. Et à force de discussions, d'observations, bah, le constat est fait que ce qui intéresse tout le monde, ce dont une grande majorité de personnes parlent, que ce à quoi pense une grande majorité de personnes, eh ben, c'est le cul, c'est la sexualité. Et c'est justement, elle le rappelle à un moment donné dans un épisode en disant, mais c'est les recherches sur Internet, les premières ou les deuxièmes, je crois que c'est le cul, quoi. Donc, à un moment donné, voilà. Et justement, pour Natalia, c'est vraiment une vraie découverte. Hein. Vraiment, vraiment. Je vais vous le dire tout de suite parce que justement, bah, les trois étudiantes qui sont déjà superbement incarnées, très bien jouées, aux profils et aux personnalités très différentes, avec des terreaux familiaux très différents aussi, et ben, elles se mettent en fait en quête de savoir ce qui existe déjà dans ces applications-là, dans ce domaine-là. Mais avant d'aller plus loin, justement, et pour rebondir sur ce que je disais trois phrases avant, c'est je vais dire deux, trois mots sur ces étudiantes, justement. Donc, Natalia, interprétée par Alexandra Skraba, est une étudiante axée à fond sur ses études et sans expérience sexuelle. C'est pour ça que je vous disais, pour elle, c'est une vraie découverte que le monde pense au cul, parce qu'elle, elle n'y pense pas. Donc, voilà. Elle est un petit peu, alors je me suis permis, hein, handicapée des émotions, un peu handicapée des relations humaines. En tout cas, elle a un peu du mal avec ça. Et elle est d'une famille dont on sait très peu de choses, même si on a un peu l'impression que c'est un peu une famille qui fait ce qu'elle peut. Sa mère s'occupe de sa grand-mère. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est... Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mari, on ne sait pas, voilà... Donc, le portrait, le cadre un peu de Natalia, l'étudiante. Donc, il y a Monica, qui, elle, est interprétée par Sandra Dritzmalska. J'espère que je n'écorche pas trop les noms. Donc, elle, alors, libre sexuellement, émotionnellement, elle a une petite vie de petite bourge, parce que son père a fait fortune lui-même dans la technologie, il a fréquenté la même université qu'elle. Et au-delà de ça, bon, elle survole vachement ses études, hein, vraiment depuis quelques mois, et elle vit dans un superbe appart que papa finance. Voilà pour le cadre de Monica, qui à mes yeux au départ n'a pas vraiment tout pour me plaire. Hein.
Et pourtant.
Et ensuite, on a Paulina, donc, interprétée par Maria Sobocinska, qui elle, alors, est croyante, pratiquante, on la suit quand elle va se confesser, et c'est plusieurs fois dans la saison. Elle est en couple avec un jeune militaire en formation, il y a un mariage en vue, elle vient d'une famille catho, assez à cheval, dirons-nous, sur les traditions.
Hein, bah, carrément traditionnaliste.
Oui.
C'est plus qu'à cheval.
C'est ça. Et bien qu'elle commette, hein, le péché de la copulation, de chair, que dis-je, et ben en fait, elle s'emmerde à mort au lit avec son mec. Et donc, je vous avais laissé avant ce petit portrait sur la notion qu'elle cherchait, ce qui existe, etc. Et donc, effectivement, hein, elle cherche autour de la sexualité, qu'est-ce qu'il y a comme appli. Et en fait, elles se rendent compte, qu'il manque cruellement un truc dans ce domaine, et on en parle aussi déjà, on en a déjà parlé, bah c'est le plaisir des femmes, en fait. absolument inexistant dans beaucoup de choses qui ont lieu autour de la sexualité. Donc, les voilà partis dans la construction d'une appli pour le plaisir des femmes, fait par des femmes, et elles mettront absolument toute leur énergie pour ça, et chacune y contribuera à sa manière, avec ses bagages, ses savoirs, ses lacunes, etc. Il y a vraiment un jeu de ping-pong un peu entre ces trois personnages, mais pas cloués dans leur piole d'étudiante, hein. C'est beaucoup plus riche. Mais quand tu veux faire ça, bah, il faut une vraie étude, avec des données, quoi. Et en fait, trois sujets, donc L3, comme unique sujet pour avoir des données sur le plaisir féminin, ce n'est pas assez. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, il faudra l'aide d'autres personnes, d'autres femmes, et on verra bien, enfin, vous verrez bien si vous regardez la série, comment que cette quête de données scientifiques se passera. Et en fait, c'est effectivement tout le truc, c'est là, c'est en fait, si cette création en fait, d'appli, en fait, les emmenait plus loin, en fait, plus loin que juste créer une application. Et si ça les emmenait finalement à s'interroger, on revient sur le sujet justement de Fab d'avant, et si c'était aussi finalement le début d'une émancipation. C'est vraiment, enfin bref, et moi j'ai trouvé cette série vraiment géniale, des personnages vraiment bien joués, qui ont vraiment leur spécificité, leur personnalité, et c'est tant mieux parce que justement, la quête aussi d'émancipation, la quête de liberté, bah, ça ne veut pas dire uniformiser nos vies en fait, ça rejoint là encore une fois ce que tu disais avant, non en fait, la liberté, l'émancipation, c'est l'expression de nos individualités, donc on peut pas, enfin, et vraiment je trouve que dans cette série-là, ça se tient vachement, en fait. Je le trouve vraiment, ce respect des individualités, en fait, et pas des copies conformes l'une des autres, parce que c'est pas ça, en fait, l'humanité. Bref, et c'est aussi une série qui aborde une quantité de sujets, de thématiques, en fait, au travers de cette application, et elle secoue un paquet de totems. On peut parler du sexisme, évidemment, hein, le patriarcat dans toute sa splendeur, et tout ce qui la soutient, tout ce qui le soutient, le patriarcat, la société, la famille, la religion, l'école, voilà, et sûrement bien d'autres choses. Ça interroge aussi justement la reproduction sociale. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et tout ça, pardon. Tu voulais dire un truc?
Moi, je veux dire la reproduction sociale au sens large. C'est-à-dire aussi bien, parce que tu disais, il y a une des personnages qui est riche, qui vient d'un milieu bourgeois, aussi bien chez les bourgeois que chez ceux qui ne le sont pas, mais qui finalement la pratiquent assez fortement.
Oui, mais parce que... oui, mais là, parce que la reproduction sociale, on sait bien que c'est... Comment dire?
Elle n'a pas de portefeuille.
Hein, c'est ça.
Elle n'a pas de portefeuille.
Non, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Elle n'a rien de tout ça. Très humaine, finalement, ou sociétale. Enfin, bref, on ne va pas partir là-dedans. Donc, ça interroge aussi la négation, finalement, de nos individualités, parce qu'encore une fois, reproduction sociale, c'est aussi taire les individus, comme la création de normes, évidemment. Ça interroge aussi le lâcher-prise, le plaisir, et les plaisirs, finalement, là aussi. Et encore des trucs qui peuvent être soutenus par la société, la religion, l'armée, l'école, tout ça. Ça connaît bien la négation des individualités, tout ça, tout ça. Donc voilà, et je trouve justement qu'on échappe en fait à trop de manichéisme. En tout cas, je trouve que le fait d'avoir trois personnages principaux assez différents, et ben en fait, ça aide à trouver de la nuance. En tout cas, la confrontation des points de vue, etc., ça amène vraiment, hein, je trouve, à nuancer. Et ouais, enfin, vraiment, je trouve que c'est assez bien foutu. Et sans oublier, évidemment, hein, que dans tout ça, il y a un tas d'expériences, de rencontres, d'échanges, d'autres personnages qui viendront enrichir, encore une fois, toute cette route d'émancipation, tous ces chemins d'émancipation. Donc voilà. Et le tout, c'est vraiment une série qui est sur un ton, mais alors vraiment décomplexé. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de tabou en soi. C'est assez humoristique, avec des scènes, moi, j'ai trouvé vraiment assez hilarantes. et sans que ce soit une grosse blague, quoi. C'est pas du tout. Ouais, c'est, je sais pas comment dire. C'est pas de la caricature non plus. Hein. On n'est pas du tout, je trouve, dans tout ça, quoi.
Non, c'est plutôt des situations qui sont très drôles.
Ouais, enfin vraiment.
Et je spoile rien, mais alors tout ce qui se passe dans les églises, moi, m'a éclaté. Hein. Personnellement, j'ai vraiment, ça m'a fait rire à chaque fois parce que finalement, il y a toujours une façon de déconstruire ce truc-là qui est par l'humour qui est extrêmement bien trouvé.
Mais oui, oui. Et puis toi, tu penses à ça et moi, je pense à une des soirées dans une soirée musicale, oui, etc. Aussi. Enfin, il y a vraiment des super scènes vraiment sympas. Donc voilà. Et justement, quand on sait que c'est une série polonaise et quand on connaît le pouvoir polonais politique qui est en place en ce moment, on en a déjà aussi parlé dans la causerie, on pourrait presque dire, enfin vraiment, moi j'ai presque envie de le dire, enfin de le dire même, c'est que c'est une série politique en fait, sans oui, être elle chiant.
Elle a un côté militant. Hein.
Mais oui, elle a un côté au moins militant, effectivement. Mais parce que, vu les totems qu'elle attaque, il y a quand même... Ouais, il y a du politique, mais le politique, encore une fois, c'est pas les partis, c'est penser le monde hein, et la vie dans la cité dans laquelle on vit, quoi, le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Encore une fois, c'est ce que je me disais, c'est que c'est sans étendard d'un parti ou d'un collectif ou de quoi que ce soit. C'est vraiment sous la notion de la liberté, de l'interrogation, de l'esprit critique, de l'émancipation et et justement, je pense qu'au-delà même de la politique polonaise, ben en fait, ces sujets nous concernent toutes et tous, quoi. Parce qu'il n'y a pas les Français, ça n'existe pas, en fait. On a tous des parcours très différents, des milieux très différents, etc. etc. Donc vraiment, je trouve qu'on peut vraiment s'y reconnaître. Alors après, peut-être que quand on a connu une éducation religieuse, peut-être qu'on s'y reconnaît plus facilement, je ne sais pas. Mais voilà, donc... Donc voilà. Et il y a aussi un dernier truc, c'est de la musique. Elle est présente tout au long de la série et c'est vraiment, mais vraiment un plus de dingue parce que des fois, c'est juste quelques notes qui vont venir appuyer un propos jusqu'à la chute et puis plus rien. Et des fois, ça va souligner des émotions et évidemment, c'est pas une comédie musicale, hein, mais il y a vraiment la musique, elle a une vraie place dans cette série, et je me suis demandé, moi j'ai pas assez, je suis pas un grand cinéphile, etc., mais je me suis demandé si en fait, est-ce que c'était plus une habitude ou une tradition de série, on va dire moderne, contemporaine, sur des thématiques comme ça, ou est-ce que c'était peut-être propre cinéma polonais, ou alors est-ce que c'est juste l'envie de la réalisatrice et du réalisateur, et que c'est déjà très bien comme ça, hein. Enfin franchement, c'est. Donc voilà. Ouais, pardon, Fab.
Ben non, mais je voulais répondre à ta question, parce que moi, je veux plus. En fait, j'ai vu la série. En réalité, c'est généralement, on cherche à avoir des titres qui vont coller avec les actions, des choses comme ça. Là, en fait, il y a vraiment. Les titres sont incrustés dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases en polonais oui. dans les morceaux qui soulignent ce qui est en train de se passer ou les émotions des personnages volontairement. Et c'est très bien fait parce que le rythme, tout colle extrêmement bien à ce qu'on voit à l'écran. Et ça, c'est plutôt rare, en fait, aujourd'hui, je trouve. Au cinéma ou dans les séries, où on devient un peu feignant et où on fait un peu ce qu'on appelle la musique générique, c'est-à-dire on met un fond sonore plutôt que de faire une musique qui accompagne. Et là, honnêtement, ça accompagne très, très bien. Et je trouve même que d'ailleurs, la musique dans cette série apporte quelque chose qui est en fait une sensualité hallucinante quand il y en a besoin et parfois une froideur terrible quand il y en a besoin aussi. Et en fait, c'est vachement bien fait parce que du coup, bah, on se retrouve à avoir comment dire, un baromètre émotionnel qui suit le son et c'est vraiment très bien. Et je ne sais plus qui est l'auteur de la...
C'est J-Mec.
Ouais, bah c'est vachement bien ce qu'il
ouais,
fait.
Bah on vous passera un petit extrait tout à l'heure. Donc ouais, évidemment, hein, je vous invite, hein, vous l'aurez compris, à regarder cette série. Donc je rappelle, c'est Sexify. Ça se trouve sur une plateforme, mais je fais confiance à ceux et celles qui nous écoutent pour arriver à les trouver où ils voudront, quand ils le voudront. Et je vous invite évidemment aussi à nous faire des retours, hein, si vous l'avez vu, si vous l'avez regardé, etc. Et parce que c'est toujours intéressant aussi d'être confronté. Alors, je sais pas si elle fera le bémol, mais je vais le faire pour elle. Clara, parce que là, dans l'émission, on les a tous regarder cette série et justement Clara, toi tu me disais des fois c'est un peu rapide ou etc. Et encore une fois, on est vraiment dans de la série. Donc, il y a des choses évidemment qui sont un peu des raccourcis.
Et y a un côté caricatural volontaire chez les personnages aussi.
Ouais, c'est-à-dire que mais sans être lourd, je trouve, sans être grossier.
Non, mais caricatural dans le sens où on essaie de poser des vraies personnes entières. On n'est jamais entièrement ceci ou entièrement
Oui.
cela. Bon, là, c'est aussi, je pense, pour il y a 8 épisodes de 40 minutes. Ça laisse pas trop le temps de trop étaler la psychologie de chaque personnage, mais
C'est
c'est
ça.
possible dans une série qui est extrêmement rythmée et où justement le rythme fait aussi l'humour de la série. C'est voilà. Mais après, je comprends parfaitement la remarque de Clara. Je t'ai fait la même.
Moi, j'aurais adoré qu'elle la fasse elle-même, mais elle a son petit micro coupé. Donc, croyez
Oui.
pas, amis auditeurs, auditrices, que je parle pour elle. C'est juste qu'elle ne veut pas parler. Et elle
Et
fait
en plus,
signe de la tête, vilaine.
comme on la voit, elle dit qu'on la bâillonne, je voulais tout savoir. C'est terrible, quoi. Alors que la seule chose qu'on bâillonne, c'est le jambon.
C'est mauvais. Il fallait pas
C'est
qu'on
très mauvais.
enregistre
Ah,
le
ça,
vendredi
c'est
soir.
nul. Ah, bah, tu vois que tu peux parler. Et juste quand même, enfin, moi, je voulais revenir sur comment elle a été perçue en Pologne, parce que du coup,
Ouais.
je suis allé fouiller, ça m'intéressait de voir. Alors d'abord, il faut savoir qu'ils ont mis longtemps à la sortir, ils ont un peu hésité. Alors, c'est plus le distributeur, a priori, qui a hésité que les autrices et auteurs, qui eux avaient très envie de la sortir, évidemment. Et à sa sortie, en fait, bah, elle a été condamnée, évidemment, par une bonne partie de l'Église polonaise, de la droite polonaise et de tout ça. Mais par contre, elle rencontre un très, très franc succès dans la jeunesse polonaise, et à tel point qu'il y a eu des manifestations où aujourd'hui il est écrit « Nous sommes tous des Natalia ». Et voilà, et c'est intéressant en fait je trouvais que encore une fois un personnage de fiction soit repris dans la rue en mode on n'a pas envie d'être comme elle. En fait, c'est pas du tout négatif, mais c'est juste on en est là parce que vous nous enfermez dans des carcans en fait. Et voilà, donc du coup j'ai trouvé ça assez marrant quoi de voir que bah ouais la série finalement elle bouscule un peu alors que ça reste un objet comique quand même au départ. Même si ça touche effectivement plein de sujets très importants et c'est plutôt bien fait, enfin c'est même très bien fait. Mais voilà, mais en tout cas, c'était voilà, là, ça m'étonne pas. Elle a été mal reçue, donc c'est que c'est bien. Quand c'est mal reçu par les réacs et les fachos, en général, c'est que c'est pas mal.
C'est ça en fait, hein. C'est plutôt bonne nouvelle, tant mieux. Mais ce qui là aussi, c'est enfin une pensée pour toutes celles et ceux qui ne sont pas à l'image de leurs gouvernants, hein, parce qu'il y en
Bien
a
sûr.
partout dans tout le monde. C'est voilà. Donc,
Et un soutien à celles et ceux qui luttent, et surtout celles d'ailleurs en Pologne
ouais.
aujourd'hui pour les droits et les droits individuels, parce que bah, y a énormément de boulot et qui ne sont pas tellement soutenus
Non,
à
c'est
l'échelle
sûr.
européenne. Et c'est un peu dommage, parce qu'après tout, on est dans le même grand espace qu'est l'Europe. Et ce serait bien des fois qu'on se soutienne les uns les autres et les unes les autres. Bon, moi, je dis ça comme ça. À mon côté internationaliste, sans
Ouais.
doute.
Bon,
Voilà.
allez, on passe à la musique.
Oui!
À toutes.
And
êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canut, comme tous les dimanches de 22h à 23h, c'est La Causerie. Et là, on vient de s'écouter justement un extrait de la bande originale de la série Sexify, dont je vous parlais juste avant. Le titre, je m'y risque, c'est Loading 100% Conclusion.
Voilà. C'est pas mal.
Non, c'est pas mal. Hein. Donc, c'est de J-Mec. Clara, elle fait une tronche, elle se fout de mon anglais.
Pas du tout.
Le J-Mec s'appelle Radzimir Debski et qui en fait est un compositeur. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. J'ai découvert ça tout à l'heure en préparant tout ça et c'est assez bon dans ce qu'il fait.
Je vous invite à voir les adaptations de rap qu'il a fait en musique classique. C'est très impressionnant.
Voilà. Eh ben, on est à la fin de cette émission qu'on pensait être peut-être même plus courte qu'une heure, mais finalement, non. Donc,
attends, elle n'est pas finie encore.
Ah, elle n'est pas finie. Fabien, il a un truc à dire.
Oui, parce qu'on n'a pas de brève pour la semaine prochaine. Comme il y a un pont, tout le monde se repose et puis que les terrasses vont rouvrir, tout ça. Mais en fait, moi, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a 300 députés qui ont déposé à l'Assemblée nationale auprès du gouvernement le fait de pouvoir enfin ouvrir une discussion et de pouvoir avoir une loi sur l'euthanasie en France. Je vous rappelle qu'on avait reçu la DMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité, dans la causerie. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, hein, si vous pensez que c'est utile, c'est d'écrire à votre député pour le soutenir et vous dire on veut vraiment que la loi elle soit mise au Parlement, parce qu'en fait, encore une fois, on botte en touche, encore une fois, on fait en sorte que la loi ne revienne pas, encore une fois, on veut éviter que ça arrive pendant les élections présidentielles, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on parle d'un sujet comme celui-ci pendant les présidentielles. Donc vraiment, c'est important de soutenir aujourd'hui l'émergence de cette loi, même si je ne suis pas un grand fanatique des lois. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de mourir dignement. Et ça, c'est juste dégueulasse dans une société qui se dit démocratique. Donc voilà, je voulais juste souligner ça, que ça vaut le coup de soutenir le fait qu'enfin une loi émerge en France pour autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté et que les gens puissent enfin mourir dignement et arrêter de souffrir pour rien, juste pour des vieux relents judéo-chrétiens. Voilà.
Eh bien, ça s'est dit, évidemment, tenez-vous informés de ce qui se passe un peu partout, de la Colombie à l'Inde, en passant par plein d'autres pays. Donc voilà, ça lutte partout, ça se fait aussi massacrer dans pas mal d'endroits. On n'oublie pas aussi, évidemment, la Birmanie. Enfin voilà, tenez-vous informés et par tous les moyens et voilà, faites savoir ce qui se passe.
Restez curieux.
Ouais, c'est ça, restez c'est curieux. C'est ça.
Et ben, il n'y a pas que la réouverture des terrasses, tu veux dire.
Non.
Non, c'était pas que. J'ai ça en plaisantant, mais tous les journaux sont en boucle là-dessus, alors qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes, excusez-moi de le dire comme ça. Et même si je serais content de retourner en terrasse, hein, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas cool, ça veut dire que la maladie recule et c'est plutôt sympa. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se passent et il ne faut vraiment pas se focaliser juste sur nos petites vies à nous et bien continuer à rester connecté à l'univers.
Oui, c'est ça, à l'humanité.
À l'humanité, c'est ça que je voulais dire.
À l'humanité, oui, c'est ça. Et bien voilà, on va se quitter. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, évidemment, comme tous les dimanches, de 22h à 23h à l'antenne de Radio Canut. Il y a plein d'émissions qui ont lieu, même comme nous, en différé, etc. Mais on fait ce qu'on peut et on y prend plaisir en espérant que vous aussi.
Oui, voilà. Beaucoup de plaisir. C'était le sens de l'émission de ce soir. Plaisir, plaisir, plaisir. Voilà.
C'est vrai. Et bien, on va se quitter avec. C'est toi, Fab, qui présente le dernier titre.
Ah oui, alors c'est Mara avec Sleazy Stereo, je crois, ou alors Sleazy, je ne sais pas trop. Voilà. Et du coup, son titre, ça s'appelle Foufoune. Voilà, tout simplement. Et juste pour vous dire, vous en réentendrez, parce que j'adore Mara. Voilà.
Voilà. C'était et donc. Une belle causerie thématique.
Voilà, exactement. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, on se fait des bisous et on vous dit courage pour ceux qui travaillent, courage pour ceux qui ne travaillent pas, plaisir, plaisir, plaisir.
Et on leur en fait aussi des bisous.
Oui, des bisous.
Ouais, c'est ça ce que tu as dit, on se fait des bisous. Mais on vous fait des bisous.
Ah, pardon,
aussi.
Oui, on vous les fait à vous.
Oh, ça va, je taquine. Allez, des bisous et à bientôt.
Ciao, ciao.
Dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche. bureau. Foufoune dans ta bouche. T'es accro. Foufoune dans ta bouche. Je fais ta roue. Foufoune dans ta bouche. Moi je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Toi t'es en défensive et t'as le seum. Ah ouh. Wine point des coquilles. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune. Foufoune. Yeah, chat, 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 miaou. Chat, 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 miaou. Faisons sur tous les rentés, on fait pas que de la trap, clap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap, clap. Nous arrêter, mais c'est qui toi, on se tape, tape. Ah ouais, est-ce qu'il y en a qui veut se frappe, frappe. Ça fait comme Booba et Caris. Sur le ring, coup de boule et cicatrice. Ring ring, voilà la police. Stop, wine pour du coquin. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche.